Je vais vous laisser vous présenter.
Alors Virginie Thiberguien, donc je suis bénévole à l'école laïque du Chemin des Dunes où je donne des cours aux adultes et aux enfants.
Monique, je suis également bénévole à l'école du Chemin des Dunes où je m'occupe des adultes et des adolescents.
Cette école, elle s'est créée comment et quand ?
Il y a une première classe pour les adultes qui a été construite en juillet 2015, qui était donc uniquement pour les adultes à l'époque. Et après, on s'est adapté à l'arrivée des familles, des nombreux enfants dans le camp. Et on a ouvert une classe pour les enfants et agrandi la classe pour les adultes qui était insuffisante.
Pourquoi ce choix d'une école dans le Binonville, en fait ?
Pour répondre à un besoin d'éducation, une grande demande au départ des adultes qui étaient demandeurs d'asile, et qui, en attendant d'obtenir un CADA, voulaient quand même ne pas perdre leur temps et apprendre un peu le français.
On a aussi des cours d'anglais. Là, il y a aussi beaucoup de gens qui demandent à apprendre l'anglais. Il y a des cours aussi de sciences, d'histoire géo, des cours d'art, plastique, des ateliers créatifs. Pour les enfants, c'est également des cours en anglais, en français, avec des images. Et il y a également une infirmerie avec une consultation bénévole de gynécologues sans frontières et puis d'infirmières le samedi, parce qu'il n'y a pas d'offre de soins le samedi.
Et en fait, l'école, c'est l'un des lieux de vie sociale ou l'un des lieux collectifs qui s'est construit dans le bidonville. Comment elle s'intègre dans son environnement ?
C'est l'occasion de rencontrer beaucoup d'exilés. C'est un moyen de communiquer avec eux, de faire des rencontres. C'est pas seulement le fait d'apprendre le français, par exemple, c'est aussi de les découvrir, de bavarder, ensuite de pouvoir les rencontrer chez eux, aller prendre un café, s'asseoir avec eux, manger avec eux. C'est un lieu aussi de convivialité.
Et c'est un lieu aussi où les liens se tissent entre bénévoles et puis réfugiés, et aussi entre les réfugiés de différentes communautés. C'est un lieu de rassemblement, d'échange, un lieu de vie au quotidien. Et pour les enfants, il y a des enseignants de l'éducation nationale qui viennent bénévolement donner des cours, parce que sinon il n'y a pas d'accès à l'éducation, contrairement aux droits des enfants en France.
École laïque du Chemin des Dunes, vous avez tenu à mettre laïque dans le nom de l'école, pourquoi ?
C'est vrai que c'est assez intéressant de voir rassembler à une même table à la fois des Soudanais, des Afghans, ça peut être des gens qui sont musulmans, qui sont chrétiens ou qui n'ont pas de religion, et ça n'est jamais abordé. C'est avant tout un lieu où on peut tous discuter et on peut tous se rassembler.
Il y a un démantèlement qui s'annonce, visiblement... Les autorités commencent à dire « Oh, l'école, on la laissera quand même ». Comment vous voyez la situation ?
Une école sans élèves, sans enfants, ce n'est pas une école. L'école, c'est avant tout les personnes qui viennent dedans, c'est eux qui la font vivre. Donc si les gens qui sont autour ne peuvent plus accéder à ce lieu de vie, c'est une grande perte au niveau de tout ce qui est apport sur un plan humain, sur un plan social, sur le plan des apprentissages aussi, et sur l'accès à l'éducation. C'est beaucoup de choses qui sont bafouées avec ce démantèlement.
Oui, une école au milieu d'un no man's land, ça n'a plus beaucoup de sens. C'est quand même, l'école fait partie d'un tout. Autour, il y a les maisons, il y a les restaurants, et les gens vont d'un endroit à un autre. L'école fait partie de cette ville-monde qui est en train de se créer au niveau de Calais.
Et il y a d'autres lieux culturels, des lieux de culte également, qui sont menacés par ce démantèlement. Tout autour, hein, il y a l'école d'art, il y a la maison des femmes et des enfants de Lise, il y a l'église,
Jungle
Books, le théâtre, voilà tout ce qui fait en fait l'humanité et la vie de tous les jours, tout ce qui s'est un petit peu reconstruit dans le plus grand dénuement initial, ça va être perdu.
Comment est-ce que vous voyez la suite ? Je dirais idéalement et puis... de manière réaliste.
Idéalement, si cette école et d'autres lieux, d'autres écoles du camp et des lieux de culte ne sont pas détruits, je me disais idéalement peut-être que ça restera un peu une forme d'oasis en plein désert où les gens viendront, quitteront les containers pour venir ici, se ressourcer un petit peu sur un lieu d'accueil, un lieu de vie. Et puis après, La version la plus pessimiste de l'avenir, ce serait de se dire que les gens vont être dans les containers complètement déshumanisés et puis vont perdre cet accès à un lieu de liberté.
Et raser, c'est également oublier toute l'inventivité, tout le dynamisme qu'il existe actuellement sur le camp, où en permanence on rencontre des gens qui ont énormément d'imagination, qui sont en permanence capables d'innover. Et là, ça sera à réduire à rien et à dispatcher les gens un peu partout, ou effectivement de les mettre dans les containers où c'est pas vivable. C'est un camp de concentration.
Et si tout d'un coup le gouvernement vous disait on s'est trompé, on va pas le faire, qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce que vous proposeriez ?
On proposerait déjà qu'il y ait l'accès à l'éducation pour les enfants. Qui est le respect de tous ces lieux de vie, que tous ces lieux de vie soient gardés, qu'il y ait des logements décents et à taille humaine qui soient proposés en hébergement d'urgence pour les réfugiés, qu'il y ait un accueil qui soit digne de ce nom et qu'on retrouve un petit peu le sens de l'hospitalité qui est une valeur chère à la région initialement, mais surtout une région où il y a eu beaucoup d'exodes par le passé. Et ça, voilà, ça a été oublié. Et puis qu'on considère aussi qu'on porte un regard humain sur les réfugiés et que ça ne soit plus une masse vue comme une masse intrusive de migrants, mais comme des personnes qui ont un prénom, qui ont un parcours, qui avaient un métier, une maison et qu'on les accueille dignement.
Vous voulez ajouter quelque chose ?
On appelle le gouvernement à ne pas laisser tomber comme un couperet comme ça des décisions qui sont médiatisées. Alors peut-être que ça n'a pas été annoncé comme ça par la préfète dans son bureau, mais en tout cas ce qui est arrivé sur le terrain, c'est que le camp allait être rasé en une semaine. C'est quelque chose qui est inhumain, qui n'est pas possible concrètement. Là, il y a plein de gens qui ne sont pas encore au courant de cette décision. Il y a plein de gens qui n'ont pas compris. Il y a plein de gens qui nous disent, quand ils ont été mis au courant, qui nous disent, mais qu'est-ce qu'on fait ? On ne sait pas où aller. Voilà, parce qu'il n'y a pas de solution qui soit proposée et qui soit à la fois humaine et cohérente à la situation.
Oui, ça c'est une fois de plus comme ça, dans l'urgence, sans prévenir. Avec absolument rien derrière. On ne sait pas ce que vont devenir les gens. Les centaines de personnes qui sont là autour de l'école, rien ne leur est proposé pour le moment. Ou des solutions qui ne vont pas être adaptées. Aller dans les containers, ben, ce n'est pas une vie. Il existe une solidarité entre eux et vont tous être envoyés éventuellement dans des CAO complètement dispersés en France. Et c'est là aussi casser le lien social qui s'est créé sur le camp.
Nous, on s'inquiète aussi pour tous les mineurs isolés qui sont dans le camp, qui actuellement, pour certains, viennent à l'école. Donc on a un lien avec eux. Ces mineurs, ils n'ont pas été recensés, mis à l'abri préalablement à l'annonce des destructions. Donc ils sont sur le terrain et si les bulldozers viennent raser leurs abris, ces mineurs, ils vont se perdre dans la nature. Et quand on sait le nombre de disparitions de mineurs qu'il y a eu en Europe, là, c'est complètement alarmant, à juste titre.
C'est vrai que l'école est également un endroit où on peut repérer les mineurs qui sont isolés. Puisque bon, en parlant avec eux, on va connaître leur âge et on a la possibilité ensuite de prévenir France Terre d'Asile ou des associations qui peuvent les prendre en charge.
Oui, donc c'est, on perd aussi ce lien-là, ce lien de protection à l'enfance. S'il y avait autre chose de mieux de proposer sur le terrain en termes de lien, d'accès à l'éducation, bien sûr qu'on laisserait la place et qu'on sait très bien que cette école, c'est quelque chose qui est indispensable mais qui est insuffisant. Mais tant qu'il n'y a rien d'autre de concret et d'adapté n'est proposé, on est obligé de rester sur le terrain et d'accueillir. Et raser les abris, c'est raser la vie humaine.